BFM Business présente BFM Climat, l'émission. Les entreprises face aux défis climatiques. Philippine Dolbeau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de BFM Climat, ici depuis le salon Roissimo Aéropole, au cœur du Grand Est francilien, là où s'inventent les mobilités du futur. On va parler aujourd'hui d'un défi absolument immense, vous allez le voir, on va parler aussi d'une formidable aventure collective, celle de décarboner l'aérien, ce secteur, vous le savez, qui relie à la fois les peuples, les économies aussi, mais qui doit désormais apprendre à le faire autrement, plus proprement et plus sobrement notamment. Alors derrière les avions, il y a tout un écosystème, les constructeurs d'abord, les plateformes aéroportuaires, les territoires, et c'est justement l'enjeu de toute cette émission. Comment faire pour travailler ensemble et faire travailler ensemble ces acteurs pour accélérer justement la transition de l'innovation technologique jusqu'aux infrastructures, hydrogène, carburant durable, énergie propre, nouveaux modèles économiques, à quoi ressemblera l'aérien de demain et surtout comment préparer dès aujourd'hui cette mutation? Voilà quelques questions que je vais poser à nos invités du jour. Jean-François Copé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes président de Roissimo Aéropole, président de la communauté de d'agglomération, je vais y arriver, du Pays de Meaux, maire de Meaux et bien sûr ancien ministre. Merci de nous accueillir sur votre beau salon, votre beau colloque. Vous êtes accompagné à vos côtés, à votre droite, de Justine Coutard. Bonjour Justine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directrice générale déléguée d'ADP, Aéroport de Paris. Et à votre droite, Bruno Fichefeux. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Vous êtes responsable des projets d'avions du futur chez Airbus. Merci à tous les trois d'être parmi nous. Alors, je le disais effectivement en introduction, la décarbonation du transport aérien, c'est un défi à la fois technologique, pratique, économique, territorial. Et justement, c'était intéressant pour nous de vous avoir tous les trois, puisque vous représentez chacun de ces pôles. Peut-être une première question pour vous trois et répond celui qui a envie en premier. Quand on parle d'abord de décarboner l'aérien, de quoi on parle concrètement dans vos métiers respectifs ? Monsieur Copé, peut-être pour commencer.
Bah, écoutez, moi je suis d'abord là pour faciliter les choses, c'est-à-dire que le rôle des élus d'un grand territoire, et nous avons un grand territoire, puisqu'on s'est réunis avec mes collègues des trois autres agglomérations, donc oui, de Roissy à Meaux, 500 000 habitants autour de Roissy, autour de l'aéroport, pour faciliter l'implantation, le développement d'activités économiques qui permettent d'œuvrer à la décarbonation. Et donc ce colloque, c'est la troisième édition aujourd'hui, hein, on en fait un tous les ans, en octobre, c'est pour inviter les numéro 1 ou numéro 2 de toutes les entreprises, les organisations, les administrations qui travaillent sur ces sujets pour nous dire ce que sera la décarbonation demain. Et nous, on est là, évidemment, pour le faciliter et on y travaille tous les jours. Donc, c'est pour ça que je suis heureux de partager cette table ronde avec la directrice générale d'ADP et l'homme qui, chez Airbus, travaille tous les jours à la décarbonation.
Merci. Alors justement, là aussi, quel est l'impact sur vos métiers de cette décarbonation, de cette transition écologique ?
Alors, la décarbonation de l'aérien, c'est bien entendu la décarbonation de l'avion, et Airbus est aux avant-postes pour toute cette dynamique. Et puis décarboner un aéroport, ça touche aussi à des dimensions qu'on a moins spontanément en tête, comme les accès, favoriser les transports en commun pour accéder jusqu'à l'aéroport, et puis décarboner aussi toute l'électricité, la chaleur qui sont utilisées dans un aéroport qui s'apparente à une petite ville, donc avec des problématiques très variées.
Merci. Bruno, est-ce que vous partagez cet avis aussi ?
Effectivement, et c'est d'ailleurs un effort collectif, car dans notre objectif de décarboner l'aviation, il y a un facteur avion, donc on remplace des anciennes générations avec des nouvelles, où on développe des nouvelles générations disruptives, plus efficaces, qui consomment moins.
Oui.
Mais l'axe majeur de décarbonation de l'aviation, il va se faire par l'introduction de carburants durables et qui vont s'appuyer sur une infrastructure qui va devoir être déployée dans les aéroports pour pouvoir approvisionner les futurs avions en carburant durable. Un enjeu majeur qui aujourd'hui met du temps encore à décoller.
Alors c'est ce que j'allais vous poser comme question justement. Ce qui frappe déjà, c'est que chacun dépend de l'autre, l'avion, la plateforme, les territoires aussi. Donc la transition, de ce qu'on comprend, ne peut pas se faire en silo. Vous préparez effectivement, Bruno, les avions du futur. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concrètement sur l'hydrogène notamment, parce que vous avez beaucoup d'innovations en ce sens?
Alors effectivement, on a côté Airbus deux grands leviers de préparation des futures générations d'avions. Le premier, c'est développer un avion un peu plus conventionnel qui remplacera le monocouloir d'aujourd'hui, la 320 que beaucoup utilisent, qui est le segment majeur de trafic aérien. Donc on travaille sur des nouveaux types de moteurs, des nouvelles architectures, des ailes plus longues pour un avion qui remplacera le secteur principal du trafic aérien. Et le deuxième levier à plus long terme est l'introduction d'un nouveau vecteur énergétique qui est l'hydrogène pour permettre un avion entièrement électrique. C'est un défi majeur, ça fait plus d'un siècle que l'aviation fonctionne en combustion de carburant. Si on passe à l'électrique, c'est un défi fascinant.
Merci beaucoup pour cette introduction. Aussi, Justine Coutard, pour que ces avions puissent voler, il faut que les aéroports soient prêts à les accueillir.
Absolument. Et un aéroport n'a pas vocation à être prescripteur, c'est-à-dire à imposer un type de technologie à ses clients, compagnies aériennes, à ses partenaires, mais a plutôt vocation à être un facilitateur. Et donc à faire en sorte que, quel que soit le choix technologique retenu par telle ou telle compagnie, on soit en mesure d'apporter les infrastructures, les équipements qui permettront à cette technologie de se déployer. C'est la raison pour laquelle on a coutume de dire qu'on n'a pas fait de choix à l'intérieur de toute technologie qui existe et qu'on se met en situation d'apporter au sein de l'aéroport les carburants durables, l'hydrogène, l'électricité nécessaire pour faire voler l'avion de demain. Et donc très concrètement, s'agissant de l'avion à hydrogène, qui est pour nous collectivement le défi le plus important, on s'est mis en situation d'avoir plusieurs hectares disponibles pour pouvoir liquéfier l'hydrogène sur place.
D'accord.
Si c'était la technologie, le choix retenu par nos clients compagnies.
Bien sûr. Ça veut dire aussi que le territoire doit se préparer à ces transformations. Est-ce que vous voyez déjà, Jean-François Copé, des nouvelles filières émerger ?
Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous, notre objectif, c'est de rebondir sur ce que venait de dire à l'instant Justine Coutard, c'est-à-dire de faire en sorte que nous n'ayons pas, nous non plus, de préférence.
Ouais.
L'objectif, c'est de décarboner. Donc, on fait du mix énergétique la priorité absolue. Ça concerne hydrogène, bien sûr, on en a parlé, mais ça concerne les biocarburants en général. Ça concerne aussi toute autre forme d'énergie qui peut, d'une manière ou d'une autre, y contribuer. C'est vrai pour l'avion, mais c'est vrai aussi pour l'automobile. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler aussi dans notre colloque de l'automobile. Le président de Renault sera là tout à l'heure, président également de la Fédération des constructeurs automobiles, Luc Châtel, Thierry Breton. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer quelle est, pour l'Europe et pour la France, la manière de déployer le maximum d'efforts sur la décarbonation. Et en ce qui concerne notre territoire, ben, évidemment, de la même manière, on travaille à travers les études qu'on a mis en œuvre pour faire venir des industriels qui vont participer à cette décarbonation, travailler avec la plateforme aéroportuaire et puis, bien entendu, avec les industriels.
Vous vouliez réagir, justement, Bruno.
Oui, Monsieur Copé vient de l'évoquer, cette mobilité décarboné n'est pas un enjeu uniquement de l'aviation, c'est multisectoriel. Nous travaillons main dans la main avec notamment les acteurs du transport routier qui vont être des brise-glace du domaine de l'hydrogène. Le transport maritime compte aussi sur l'hydrogène pour se décarboner. Et donc face à ce défi, on n'est plus dans une situation isolée où chacun pour soi. Ça ne fonctionnera qu'en collectif.
Ça fonctionne en collectif, ça on l'a compris effectivement, et merci de le rappeler. Tout est lié, à la fois les plateformes, les politiques locales, les constructeurs et l'innovation. Malgré tout, peut-être que chacun de ces trois piliers n'avance pas forcément à la même vitesse. On parle beaucoup de 2035, 2050. La réalité, c'est que vos secteurs aujourd'hui, ils agissent maintenant. Quels sont, selon vous, les verrous ou les freins qui freinent justement cette décarbonation ?
Bah, écoutez, le premier de ces freins, c'est évidemment l'argent, les moyens financiers. Financiers.
Toujours, on y revient toujours.
Lorsque l'on voit ce qui se passe en Chine, en Inde, et même sur le continent nord-américain, on voit bien que l'Europe a des enjeux majeurs. Et là, évidemment, c'est un rendez-vous avec la politique, au sens noble du terme. Parce que je pense que la politique, c'est grand, même si parfois ça donne une image petite, c'est grand. Et cette grandeur, elle tient justement à la vision, à la capacité de créer les conditions pour que les grands industriels européens puissent créer pour demain des carburants totalement décarbonés. C'est pour nous un enjeu absolument majeur, c'est le financement, c'est naturellement la régulation. Il faut trouver les voies et moyens pour un bon équilibre et éviter d'écraser de charges et de taxes les entreprises qui doivent investir pour embaucher. Et puis, ben, le troisième élément, c'est la recherche, évidemment. Et il faut que dans ce domaine, nous fassions de la recherche une priorité absolue. C'est le cas, mais jamais suffisamment. Et là encore, ce sont des décisions qui renvoient à la grandeur de la politique.
Merci. On y revient toujours, à la fois à l'argent et à la fois à la politique, surtout en ce moment, effectivement. Il y a aussi, j'imagine, un enjeu de formation, notamment auprès de vos équipes, chère Justine.
Absolument. Enfin, les freins sont multiples. Jean-François Copé l'a rappelé. On a besoin aussi de se mettre en situation de préparer les compétences et l'évolution des métiers de demain. Et sur ce sujet, comme sur celui de la recherche, comme sur celui de, du fait de nous doter des capacités de production suffisantes, je pense qu'il y a un élément clé, c'est de la continuité et la stabilité dans les orientations qu'on donne aux acteurs. Et ça, si on veut préparer justement les générations futures à relever les défis de demain, il faut qu'on ait un cap clair et qu'on s'y tienne.
Mais oui, alors ça aussi, Bruno, est-ce qu'il faut, comme le disait Monsieur Copé, une impulsion politique plus forte pour coordonner chacun de ces efforts que vous mettez en œuvre, ou au contraire plus de liberté pour innover ?
C'est un mélange des deux. Il faut certainement une politique qui soit plus incitative plutôt que répressive ou taxative, comme vous l'aviez évoqué, pour pouvoir justement permettre de stimuler cette économie de l'hydrogène. Ça, c'est un premier levier. Le deuxième, c'est cet esprit pionnier, innover, la liberté d'être disruptif, d'être en rupture. Ce qui est assez difficile, car dans le secteur de l'aviation, on est aussi extrêmement réglementé par des enjeux primordiaux, qui est la sûreté en vol.
Bien sûr.
Assurer qu'un avion puisse décoller, atterrir tous les jours, 355 jours par an, sans incident. Donc rester dans cet environnement réglementé, tout en innovant, c'est un enjeu majeur que nous mènerons d'ailleurs avec d'autres acteurs de l'innovation et pas uniquement Airbus.
Alors, autres acteurs de l'innovation, des start-up, des énergéticiens aussi, des acteurs du territoire. Est-ce que cette décarbonation, elle change aujourd'hui votre façon de coopérer avec ces autres acteurs, plus petits peut-être ?
Alors, il y a un travail avec des acteurs plus petits. Donc, on parlait de la scène de l'innovation au niveau des start-up, des PME, où aujourd'hui, Airbus est rentré en partenariat de différentes manières. Soit on rentre dans le capital de différentes start-up, soit on propose des ressources et des compétences, ou alors un guide technique vis-à-vis de leurs défis, notamment sur les enjeux de certification. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier aussi, c'est que nous avons développé au sein d'Airbus notre propre environnement de start-up, on appelle Airbus Up Next, qui développe des démonstrateurs sur les technologies disruptives de manière rapide, agile, en récupérant d'ailleurs des acteurs de l'extérieur. Je vous cite un exemple. Pour pouvoir rentrer le futur monocouloir dans les portes, les gates des aéroports avec des ailes beaucoup plus longues, il faut les plier. Et donc notre start-up interne a racheté un avion Cessna, lui a coupé les ailes, lui a installé des ailes pliantes. Et vu qu'aucun pilote ne souhaite au début faire ses essais en vol, on a dronisé cet avion. Et ce, en quelques mois, pour pouvoir voler au-dessus de la mer et tester en vol le comportement d'ailes pliables. Donc ça, c'est l'esprit pionnier, innovateur que nous avons pu développer avec des start-up et au sein d'Airbus.
Sacré projet, là aussi, l'innovation est en marche. Si on se projette justement dans les prochaines années, j'ai commencé à en parler il y a quelques instants, si on se projette par exemple en 2040, à quoi ressemblera selon vous le système aérien du futur ? Peut-être avec vous Justine, d'abord pour commencer, pour l'aéroport de Paris, à la fois au niveau des infrastructures, de l'expérience passager, de l'utilisation de l'énergie. Est-ce que vous avez, j'imagine, déjà une feuille de route, mais est-ce que c'est assez concret aujourd'hui ?
Vaste sujet.
Ouais,
et justement parce que je pense qu'on a besoin de rendre ce sujet de la transition environnementale plus tangible, plus concret, plus accessible aussi pour être plus désirable. On a eu à cœur, nous, de définir un projet d'aménagement à l'horizon 2035-2050 sur nos aéroports parisiens pour donner à voir concrètement à quoi ressemblera l'aéroport du futur et pouvoir aussi embarquer nos compagnies aériennes, nos prestataires, nos assistants en escale et puis nos partenaires territoriaux dans ce projet pour leur montrer à quel point justement l'avenir pouvait nous réserver des surprises et aussi définir un nouveau mode de relation entre l'aéroport et le territoire. Et je pense que l'aéroport de demain, il sera évidemment pourvoyeur de solutions pour les acteurs de l'aérien. Donc il apportera des carburants d'aviation durable, de l'hydrogène, de l'électricité dans des quantités beaucoup plus importantes. Il sera également pourvoyeur d'accessibilité. c'est-à-dire qu'il offrira différents moyens de transport pour le rejoindre. Les lignes de métro, dont on est progressivement doté de manière beaucoup plus importante à Orly comme à Roissy aujourd'hui. Des lignes TGV, et on travaille beaucoup avec la SNCF pour augmenter la connectivité de la gare TGV de CDG2, qui est logée au cœur de l'aéroport. Et puis aussi pourvoyeur de solutions en matière d'énergie, puisqu'on est d'ores et déjà producteur, distributeur d'énergie bas carbone, d'électricité solaire, de géothermie. On a aussi une centrale biomasse. Demain, on veut aussi que ces solutions énergétiques bénéficient à nos voisins territoriaux, pas seulement pour nos besoins propres, mais aussi pour les besoins des collectivités riveraines.
Collectivités, justement, on en arrive à vous.
Ben oui, parce que j'ai pas besoin de vous dire que si nous avons imaginé ensemble ce partenariat avec l'ensemble des élus et du territoire et aéroport de Paris, c'est pas par hasard. Quand vous avez un grand aéroport, et Roissy est plus grand aéroport d'Europe, et que dans le même temps, vous n'avez pas autour des territoires qui sont complètement engagés pour faciliter l'accès en termes de mobilité, les emplois, la formation et l'installation d'un vrai écosystème, bah vous faites pas votre travail d'élu. Voilà. Ouais. Et donc moi, de ce point de vue, l'intuition que nous avons eue, c'est de dire ce qu'il faut, c'est que on puisse cocher toutes les cases en même temps. Donc on a tout lancé en même temps. La réflexion sur le développement durable, mais aussi les transports, les mobilités en général, l'emploi et la formation. Et vous voyez, typiquement, il y a dans la salle du colloque une centaine de lycéens du lycée Pierre de Coubertin, qui est un des lycées de Meaux, pour lequel Valérie Pécresse, la présidente de région, a investi 160 millions d'euros pour en faire un lycée dédié aux métiers de l'aéronautique et de l'aéroportuaire, et qui seront demain tous ceux et celles qui vont participer par leur métier, par leur qualité, par leur talent, à l'avenir de la filière aéroportuaire, aéronautique et aérienne française. C'est tout l'enjeu, et je pense que de ce point de vue, le fait de pouvoir combiner la structure qui est un aéroport, les territoires autour, et naturellement les industriels, toutes catégories confondues, et quand je mets industriels, j'inclus évidemment les entreprises de services, avez un peu la France qui gagne quand même. Donc, quand de temps en temps ça marche, autant le valoriser, et c'est tout l'enjeu de ce colloque annuel, où nous invitons ceux qui œuvrent au progrès pour le développer aussi bien d'ailleurs en France qu'en Europe ou dans le reste du monde.
Créer des vocations, c'est ce qui est en train de se passer, cher Bruno, là justement derrière nous dans le colloque, c'est aussi ce que vous voulez faire, j'imagine, chez Airbus.
Effectivement, c'est un enjeu majeur. On a réussi au cours de 4 ou 5 décennies à se hisser du start-up de l'aviation Challenger de Boeing en leader mondial. Aujourd'hui, nous avons en France un savoir-faire bout en bout sur toute la chaîne de l'aéronautique, en France et en Europe. Et aujourd'hui, nous avons aussi un environnement concurrentiel, notamment venant de la Chine, qui nous met en situation de challenge. Et pour pouvoir préserver cette situation et ce savoir-faire, nous aurons besoin demain, notamment dans ces nouveaux développements, d'ingénieurs, de développeurs, de monteurs, d'aiguilleurs du ciel, de pilotes. Et donc cet axe de formation est extrêmement important pour nous. Ouais. Nous sommes d'ailleurs partenaires de cette convention Roissy-Moi-Aéropole et en lien direct avec le lycée Pierre de Coubertin.
D'accord.
Pour pouvoir très jeune
détecter les talents,
développer ses talents, ses vocations, faire aussi donner du rêve à ces lycéens qui les engagent dans un enjeu de développement durable qui donne un sens aussi à leur savoir-faire.
Créer des vocations, les accompagner, on a compris, c'est effectivement l'une des priorités aussi. On parle depuis tout à l'heure de tout ce qui est positif et de ce qui se passe très bien aussi. Quand on imagine le futur, j'imagine évidemment qu'il y a aussi dans vos trois secteurs respectifs et domaines d'activité quelques réticences.
Écoutez, moi, en ce qui me concerne, depuis que je me suis engagé sur cette orientation stratégique qui est majeure, j'ai pas constaté beaucoup de réticences. C'est ça qui d'ailleurs m'a agréablement surpris. On m'avait dit oh là là, mais l'avion avec le bruit, avec la pollution, avec les nuisances, tu vas avoir toutes les associations contre toi. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, en prenant le temps de dialoguer, les gens sont bien conscients que les avions ça peut faire du bruit. Encore que l'objectif c'est que ça en fasse de moins en moins.
Oui.
Et que les perspectives à côté de cela, en termes de qualité de vie, d'accès à l'emploi, sans avoir à traverser l'Île-de-France et à passer des heures dans les transports. Sport, mais près de chez soi, d'avoir des outils de recherche, d'excellence, d'implantation d'entreprise, ça peut être plus qu'une compensation, ça peut être un vrai bénéfice. Et à ceux qui disent de toute façon l'avion c'est fichu, ça marchera jamais, je rappelle que jamais les flux de transport aérien n'ont été aussi importants depuis la fin de l'épidémie de Covid, que jamais on a eu autant d'appétence pour le voyage, que ce soit du point de vue professionnel ou personnel, et qu'il y a derrière tout ça une excellence européenne qu'il faut impérativement effectivement préserver et promouvoir. Donc en réalité, quand on se pose deux minutes, on se rend compte que quand on est plein de bon sens, bah finalement les réticences, elles sont même constructives.
Le bon sens, vous le voyez aussi, malgré ces réticences ? Justine,
il faut pas se cacher que le secteur aérien est controversé aujourd'hui.
C'est et que, un peu ce que j'allais vous dire.
Ouais. Oui, et que malheureusement, on n'a pas toujours le même soutien que celui que nous offre Jean-François Copé au quotidien. On est régulièrement interpellé sur les nuisances provoquées par notre activité, et c'est bien légitime. On a une activité qui provoque du bruit, qui contribue à la pollution de l'air, et donc on travaille activement aussi pour que ces nuisances soient les plus réduites possibles et pour maximiser tous les bénéfices évoqués par Monsieur le Président, faire en sorte que l'aviation soit de plus en plus considérée comme une chance au bénéfice du territoire dans lequel elle est implantée.
Ouais. Bruno.
Nous sommes dans un secteur où on est extrêmement conscient de notre impact climatique. Et c'est pour cela qu'au sein de l'OACI, l'organisation qui regroupe tout le secteur de l'aviation au niveau international, nous avons défini une ambition de décarbonation du secteur d'ici à 2050 en termes de net zéro. Et on voit aujourd'hui un déploiement de force et d'engouement pour pouvoir le matérialiser. Et pas uniquement chez les grands constructeurs. Il y a chaque semaine des nouveaux records technologiques d'autonomie, de distance parcourue, d'avions électriques ou de l'hydrogène. C'est tout un écosystème qui s'anime. Nous sommes convaincus, nous, suite à nos plusieurs années de travaux sur l'hydrogène et sur les nouvelles technologies de propulsion, que c'est possible. Les essais sont conclusifs. Après, il faut donner le temps à cette transformation de se passer, mais on est motivé et extrêmement dédié. Il y a des difficultés sur ce chemin, notamment la production de SAF, donc de carburant durable à quantité et à prix raisonnable. Donc c'est une difficulté, mais nous serons aussi capables de la surmonter.
On entend effectivement vos différents points. Est-ce qu'aujourd'hui, un autre sujet qui fait particulièrement l'actualité dans votre domaine, j'imagine aussi, c'est l'abord de l'intelligence artificielle au service de cette transition écologique? Ce sera ma dernière question à tous les trois avant de conclure cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle, peut-être même française, vous sert dans cette transition, Justine?
Absolument. Enfin, l'intelligence artificielle, quand elle est bien utilisée et quand on en contrôle les éventuels effets pervers, peut être un remarquable démultiplicateur d'innovation. Donc ça peut vraiment nous permettre très concrètement d'avoir des solutions sur des sujets aussi variés que la consommation d'électricité, le suivi de nos consommations énergétiques au sens large, sur la mesure de la qualité de l'air et l'anticipation des épisodes et des pics de pollution et de la manière, du coup, en les anticipant mieux, de mieux les juguler. Et puis aussi sur des sujets de biodiversité, là où on attend moins forcément et l'aéroport et l'intelligence artificielle, on s'aperçoit que c'est une technologie qui peut nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la préservation et la mise en valeur d'espèces, de la faune comme de la flore dans nos prairies aéronautiques.
Merci beaucoup. Sujet que vous constatez aussi, Bruno?
Oui, l'aviation de demain va suivre le même défi qu'a vécu l'automobile, avec des avions beaucoup plus connectés, des avions beaucoup plus digitaux. Donc un partage de données beaucoup plus intensif, ça va permettre de développer une couche applicative, notamment pour optimiser tout ce qui est le trafic et le transport aérien, éviter que des avions passent des boucles d'attente avant d'atterrir, optimiser leur plan de vol sur le décollage et l'atterrissage pour minimiser les consommations de carburant. Donc je suis confiant qu'une couche applicative, notamment accélérée grâce à l'IA, va permettre d'accélérer la décarbonation.
Merci beaucoup. Jean-François Copé, là aussi, l'intelligence artificielle.
Évidemment, l'intelligence artificielle est un enjeu considérable pour nous tous. On y travaille les uns et les autres. Et ce que j'entends sur l'utilisation intelligente de l'intelligence artificielle correspond exactement à ce que les dirigeants économiques et politiques doivent mettre en œuvre ensemble, c'est-à-dire l'utilisation de ce formidable outil au service du progrès. Et de ce point de vue, évidemment que les aspects applicatifs dans le domaine de l'aéronautique et de l'aéroportuaire sont exceptionnels. C'est une immense chance pour nous, à condition évidemment d'en contrôler les effets pervers.
Toujours, effectivement. Là aussi, on y revient. Merci infiniment, en tout cas, à tous les trois de nous avoir donné ce message d'espoir en direct depuis le salon Roissimo Aéropole pour cette édition spéciale de BFM Climat. J'ai été absolument ravie de pouvoir échanger avec vous. On croise les doigts pour le futur. Je crois que les prochains mois ont l'air de plutôt être positifs, de ce que je comprends, de ce que vous nous avez dit. On l'a compris, décarboner le ciel, c'est avant tout, vous l'aurez compris, là aussi, une aventure collective, technologique, mais aussi humaine et territoriale. À très bientôt dans BFM Climat.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.